prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Camille Roupetel, je suis chercheuse en histoire médiévale, actuellement postdoctorante au CRHIA à l'Université de Nantes, lauréate de la médaille Jean Bernat et Ferrari Doria, décernée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et je suis vraiment très heureuse de vous parler de mes recherches en cours sur les interactions entre les chrétiens d'Orient et d'Occident et les musulmans au Proche-Orient durant la période mamelouque, c'est-à-dire durant les derniers siècles du Moyen-Âge. Pour commencer, je souhaiterais vous parler de la manière dont je mène mes recherches et de l'importance du travail de terrain. Ce printemps, j'étais, comme chaque année, en mission à Jérusalem. Mission aux archives, bien sûr, mais aussi travail avec des collègues archéologues et observation de terrain avec un collègue et ami anthropologue à la faveur des célébrations de la Pentecôte, donc selon les deux computes, le compute romain, qui tombait donc le dimanche 9 juin cette année, et orthodoxe, le dimanche 16. Avant d'en venir à cette expérience de terrain et à la manière dont ça se passe pour mes recherches à Jérusalem, juste quelques mots pour vous dire que si aujourd'hui je peux, comme beaucoup d'autres, effectuer ces missions de terrain à Jérusalem, c'est grâce notamment au réseau ce qu'on appelle les UMIFRE, c'est pas un sigle très joli, Unité Mixte et Institut Français de Recherche à l'étranger, qui est une grande chance pour les chercheurs français et pour tous ceux qui veulent travailler sur des terrains un petit peu partout dans le monde, notamment en Méditerranée, et en l'occurrence c'est l'Institut de Jérusalem, le centre de recherche français à Jérusalem qui m'accueille lors de ces missions. Et c'est pour nous vraiment une grande chance de pouvoir travailler. Je pense que les étudiants, y compris dès le master, ne doivent pas hésiter à faire appel à ces réseaux quand ils veulent aller explorer le terrain, notamment proche-oriental. Donc je ne vous parle pas de ces missions de terrain pour vous faire partager un carnet de voyage, mais juste pour vous livrer quelques remarques sur l'importance de ce travail de terrain, en tout cas à mon sens, et les conséquences de ce travail sur la construction d'un objet de recherche. Durant ma thèse, j'ai travaillé un petit peu différemment sur les représentations des chrétiens melkites et orientaux dans les sources occidentales à partir de sources déjà publiées, que j'ai tenté d'interroger à nouveau frais. Donc là, pas directement de travail de terrain. Cette thèse était dirigée par Jacques Verger. Je le cite avec d'autant plus de plaisir que je suis donc ici aujourd'hui à l'Institut, que Jacques Verger est membre de l'Institut et que c'est un autre membre de l'Institut, Jean Richard, qui m'avait envoyé chez Jacques Verger pour mon travail de thèse. Et je me rappelle les derniers jours à la Bibliothèque nationale quand je terminais de rédiger ma thèse, notamment quand j'écrivais ma conclusion. Jean Richard était à la BN ce jour-là et il passait derrière le bureau où j'étais installée et j'avais trouvé que c'était un très très joli signe en cette fin de thèse, lui qui était à l'origine de ce travail, parce que je l'avais beaucoup lu et parce qu'il m'avait envoyé auprès de Jacques Verger. Donc je vous disais que j'ai commencé donc à travailler sur les représentations des chrétiens melkites et orientaux. Alors peut-être pour ceux qui sont moins familiers de ces appellations, juste un tout petit point de vocabulaire sur ce qu'on appelle les chrétiens melkites. Ce sont des chrétiens qui adhèrent à l'orthodoxie chalcédonienne, en référence donc au concile de Chalcédoine, orthodoxie chalcédonienne qu'ils partagent avec les autorités impériales byzantines. Ces chrétiens vivent dans les provinces orientales de l'Empire byzantin, qui passent donc sous administration islamique au cours du 7e siècle, et en partie sous administration et sous domination franque au 12e siècle, donc dans la continuité de la première croisade. Les Melkites sont particulièrement importants pour Jérusalem parce qu'ils forment, avec une autre communauté, que l'on appelle dans les sources latines les Jacobites, la majorité de la population chrétienne des États francs et donc du royaume de Jérusalem, et ensuite de Jérusalem aux périodes donc ayyoubides, après la conquête de Saladin en 187 et Mamelouk, donc à partir de 1260 pour les Mamelouks à Jérusalem. Je suis donc beaucoup allée à Jérusalem, notamment à partir de 2015, et ces nombreux séjours à Jérusalem ont infléchi non seulement ma lecture des sources, mais mon objet d'étude. Le premier bénéfice d'une telle mobilité, c'est bien sûr d'abord une meilleure connaissance du terrain qui a été arpenté, décrit, construit par les pèlerins, les mémorialistes, les missionnaires médiévaux. Donc on va lire différemment les sources hein, quand on se représente bien sûr ce qui est décrit. Et le deuxième bénéfice, c'est de prendre conscience de l'impossibilité d'étudier les latins du Proche-Orient, qu'ils soient installés durablement ou simplement de passage, nous y reviendrons, en dehors de leur environnement immédiat, les chrétiens melkites orientaux et les musulmans. Alors, quelques exemples de ces expériences à Jérusalem pour montrer vraiment cette prise de conscience de l'impossibilité de travailler de manière cloisonnée. Le hasard a fait qu'en 2018, j'étais présente lors de l'installation du nouvel évêque Melkite. Alors là, pas dans le même sens que pour la période médiévale, mais au sens de l'Église grecque catholique. Donc, Monseigneur Joseph Ayache. Et l'installation du nouvel évêque Melkite, donc c'est fait lors d'une, bien sûr, il y a une entrée solennelle à Jérusalem, et ensuite une messe, bien évidemment. Et lors de cette messe étaient présents tous les représentants des communautés chrétiennes de Jérusalem, à l'exception, bien évidemment, des Grecs orthodoxes, hein, puisqu'il s'agissait de l'église grecque catholique. Donc toutes ces églises présentes et les représentants de toutes ces églises au même endroit pour l'installation du nouvel évêque Melkite. Et puis après, il y avait une réception où tout le monde pouvait entrer librement et on pouvait discuter, aller serrer la main du nouvel évêque Melkite sans aucun problème. Un autre exemple, donc lors de la Pentecôte dont je vous parlais au début de cette intervention, la Pentecôte, donc selon le compute orthodoxe. Et là, nous gravissions le mont des Oliviers et nous sommes tombés sur des Érythréens qui descendaient du mont des Oliviers et qui venaient pour célébrer donc la Pentecôte à Jérusalem. Alors, j'ai eu très peu d'interactions, ne parlant pas l'amharique, donc j'ai pas pu discuter avec eux, j'ai juste compris qu'ils venaient d'Érythrée. Mais c'est bien sûr une religiosité très différente, une piété très différente, avec ces hommes qui sont donc habillés en bleu et en blanc, qui descendaient du mont des Oliviers en chantant, en dansant, en tapant dans leurs mains. C'était extrêmement joyeux. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs aux descriptions qu'on trouve dans les récits médiévaux. Ça montre voilà, une autre expérience de la chrétienté. Et puis peut-être un dernier exemple pour montrer que, bien évidemment, ces coexistences ne sont pas toujours joyeuses. Il y a des moments de tension extrême. C'était le cas, toujours pour la Pentecôte, lors de la célébration au Cénacle par les Arméniens, avec là des manifestations d'ultra-orthodoxes contre la présence de ces Arméniens au Cénacle en raison de la revendication de la présence de la tombe du roi David en dessous du Cénacle. Donc là, on est dans un lieu saint partagé, diront certains, lieu saint disputé, hein, souvent dans la réalité, qui montre qu'il y a également beaucoup de moments de tension. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de projeter hein, toutes ces réalités, tous ces concepts, de manière anachronique sur des réalités passées qui sont médiatisées par des sources narratives et des sources d'archives. Le but, c'est juste d'attirer notre attention sur certaines interactions et sur, j'insiste, la diversité irréductible de la société proche-orientale, qu'elle soit placée pour la période médiévale sous souveraineté franque ou islamique, et diversité, bien sûr, qui n'exclut pas des moments de tension et d'affrontement. Enfin, ça nous permet de nous orienter vers d'autres sources, notamment la question du droit en contexte urbain. C'est donc à une étude en contexte, un contexte proche-oriental, vous l'aurez bien compris, des latins au Proche-Orient, que je me consacre aujourd'hui en relisant les sources éditées dans une perspective transversale, en recourant à d'autres sources, notamment les apports de la culture matérielle et les archives conservées à et par la custodie franciscaine de Terre Sainte à Jérusalem, mais aussi en développant des projets collectifs qui seuls permettront une étude connectée des chrétientés en Orient, chrétientés latines incluses. Pourquoi est-ce que seuls ces projets collectifs le permettent? D'abord pour la question de la connaissance, hein, de l'éventail des langues nécessaires pour travailler sur les différentes sources. Et donc c'est ce cheminement que je vais tenter de vous présenter. Donc revenons à la période médiévale, au XIIIe siècle, plus précisément au 28 mai 1291, lorsque le sultan Mamelouk al-Ashraf Khalil s'empare d'Acre. Acre était donc la capitale du second royaume de Jérusalem. Après la prise d'Acre en 1291, pendant 20-30 ans, il y a une quasi-interruption des pèlerinages latins, interruption qui prend fin sous le troisième règne du sultan Mamelouk, toujours bien sûr, al-Nazir Muhammad, qui marque une période de paix, on le voit très bien notamment après le traité d'Alep avec les îles Khan en 1323, une période de paix, de stabilité politique, de prospérité sans précédent dans l'histoire du sultanat mamelouk. Et donc dans les années 1320, surtout 1330, le pouvoir mamelouk encourage la reprise des pèlerinages. Dès lors, quelles sont les questions qu'il faut se poser? Où arrivent les pèlerins? Que voient-ils? Qui rencontrent-ils quand ils débarquent à Alexandrie ou à Jaffa? Alors, ces pèlerins, pourquoi est-ce qu'ils partent? Ils partent vers ce qu'ils appellent et ce qu'ils considèrent comme la Terre Sainte, et ils partent à la recherche des traces tangibles de leur croyance spirituelle. Et où arrivent-ils? Ils arrivent au cœur du sultanat mamelouk, donc dans une terre retournée à l'islam. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Hein, depuis 1187 et la prise de Jérusalem par Salah ad-Din, donc sultan ayyoubide, la ville sainte est revenue à la souveraineté islamique, donc à l'exception des années 1229-1244, après la négociation donc, du traité par Frédéric II. Mais 1291 marque vraiment une rupture pour les pèlerins latins, parce que de membres d'une société de conquête, ils deviennent les membres d'un groupe placé, à l'instar de leurs coreligionnaires, en situation de minorité politique et soumis, le temps du pèlerinage, au statut de laman. Cette rupture se traduit dans leur récit par l'irruption du présent dans le temps figé des évangiles. Deux réactions, qui ne s'excluent pas l'une l'autre, transparaissent dans les récits des pèlerins latins. D'abord, la construction ou la reconstruction de l'identité chrétienne de l'Égypte, de la Palestine, de la Syrie. Comment prouver que cette terre est chrétienne alors qu'elle est revenue à l'islam, sous souveraineté mamelouke ici. Et deuxième réaction, une attention renouvelée à l'altérité orientale, à la fois chrétienne et islamique, dans ces mêmes terres et également altérité de ces terres pardon, et de ceux qui les peuplent. Dernière remarque, avant d'en venir plus précisément au développement de mes recherches aujourd'hui, c'est que le texte, bien évidemment, est une construction, n'est pas un reflet de la réalité. Alors c'est une évidence, mais c'est toujours bon de rappeler ce genre d'évidence. Le texte est un discours, une construction, c'est vraiment très important de l'avoir à l'esprit. Nous aborderons donc successivement deux points. Tout d'abord, les interactions entre les pèlerins latins, c'est-à-dire les latins de passage, dans ce qu'ils considèrent comme la Terre Sainte, avec leurs coreligionnaires orientaux et les musulmans. Et ensuite, nous verrons les interactions entre les franciscains de la custodie de Terre Sainte, c'est-à-dire des latins qui, eux, sont installés durablement au sein du sultanat mamelouk, au sein du Bilad al-Sham, et les chrétiens orientaux et les musulmans. Donc commençons par ce premier point, qui porte sur les interactions entre les pèlerins latins, donc qui sont là de manière très, très passagère, et leurs coreligionnaires orientaux et les musulmans, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Pour confronter la construction de leur discours avec la réalité de la vie quotidienne, le temps du pèlerinage, il faut prendre en considération trois éléments. Premier élément, où les pèlerins latins résident-ils ? Deuxième élément, qui fréquentent-ils le temps de leur pèlerinage ? Troisième élément, par qui ces pèlerins sont-ils accueillis et encadrés ? Alors, première question, où résident-ils ? Ils résident en grande partie au couvent du Mont Sion, donc à proximité immédiate de l'hospice et du monastère éthiopien. Couvent du Mont Sion, qui est le premier couvent édifié par la custodie franciscaine de Terre Sainte, nous y reviendrons, qui se situe hors les murs. Deuxième lieu où ils vont loger, toujours hors les murs parfois, dans le quartier de la Mamilla, accueillis par des agents du sultanat mamelouk. Et puis troisième lieu important, cette fois-ci dans les murs, c'est le couvent arménien Saint-Jacques. Et bien sûr, quand ils sont accueillis au couvent arménien, c'est une occasion de rencontre avec leurs coreligionnaires arméniens ou d'autres églises qui sont, comme eux, accueillies au couvent Saint-Jacques. Donc, qui fréquentent-ils le temps de leur pèlerinage ? Autrement dit, restent-ils avec leurs compatriotes et entre pèlerins latins ou sont-ils en relation avec les autres chrétiens, melkites et orientaux, pèlerins comme eux ou résidents permanents de Jérusalem et avec les musulmans ? Alors pour ça, on peut aller regarder ce qu'écrit le franciscain Niccolo da Poggibonsi, qui est présent à Jérusalem en 1346. Il nous décrit notamment les cérémonies pascales. Et je cite Poggibonsi. « Et chacune des nations suit son église, petits et grands, hommes et femmes, et tous crient à haute voix, Kyrie eleison, Christe eleison, et ils regardent vers le haut, par la fenêtre qui est au-dessus, pour voir le feu sacré, et cela dure 2 heures. » Et alors chaque nation tourne autour de son autel et célèbre son office à sa manière. Et de même que les langues diffèrent, de même les chants diffèrent, et qui chantent avec la bouche, et qui chantent avec les mains, c'est-à-dire en faisant des gestes étranges, nous au vie, écrit-il, avec les mains, qui d'une façon, qui d'une autre, et de même pour les processions. Lors de la procession des rameaux, après avoir décrit les manifestations d'allégresse, allegrezza des chrétiens, Poggibonsi s'attarde sur celle des sarrasines, et il reprend le même terme, allegrezza. Quand les sarrasines veulent montrer leur allégresse, elles font ainsi, en agitant leur langue dans leur bouche, et elles émettent un son à la manière des grenouilles que personne n'a jamais entendu sans être frappé de stupeur. Alors ici, nulle remarque désagréable, c'est juste pour essayer de faire comprendre à ses lecteurs occidentaux ce qu'il a pu entendre et qui est complètement nouveau pour lui et a fortiori pour ses lecteurs. Alors que retirer pour notre propos de ces deux extraits de Poggibonsi ? D'abord que les pèlerins latins participent aux liturgies célébrées selon le rite oriental. Donc toutes les églises participent à une même célébration, au même moment, pas encore de distinction des computes, et dans le même lieu, ici, le Saint-Sépulcre des latins, Anastasis pour les grecs et les orientaux. Deuxième chose à retenir, que ces célébrations liturgiques sont l'occasion de contact avec les chrétiens melkites et orientaux et avec les musulmans. Et enfin, dernier élément, en tout cas pour Poggi Bonzi, c'est que lui valorise cette diversité et la nouveauté de ses liturgies. Alors, Poggi Bonzi est un franciscain, il demeure 4 mois à Jérusalem, 4 mois durant lesquels il officie au Saint-Sépulcre, ce qui atteste de liens particulièrement étroits avec les franciscains de la custodie. Nous reviendrons à cette custodie qui vient d'être fondée. C'est un observateur particulièrement zélé, enthousiaste des mœurs, des hommes et des femmes rencontrés en Palestine, et il fait presque œuvre d'ethnographe. Et donc c'est l'expérience directe qui fonde ici la connaissance d'un Orient bigarré, divers à deux titres, d'abord différent de tout ce qu'a pu connaître le franciscain en Occident et variant d'une nation à une autre. Nation, je reprends ici le terme des sources médiévales, que ce soit en latin ou en langue vernaculaire. Nulle mention d'une géographie sacrée figée au temps évangélique. Le pèlerin utilise bien plutôt ses yeux pour voir et ses oreilles pour entendre, sans attribuer aucune valeur ontologique à ses observations. Alors, ces célébrations liturgiques sont bien sûr un moment très important pour la rencontre, mais elles ne sont pas les seules occasions de rencontre. Nous avons déjà évoqué les lieux de résidence des pèlerins latins. Nous pouvons également penser aux lieux d'étape communs aux chrétiens latins et orientaux et aux musulmans. Là, on va se tourner vers un autre mendiant, le frère Augustin Jacques de Vérone, qui part en 1335 pour la Terre Sainte. Et dans leur route vers le Sinaï, Jacques de Vérone et ses compagnons parviennent à un puits, le puits du Sultan, où convergent les routes qui sont suivies par les pèlerins latins sur les traces de l'Exode, par les pèlerins musulmans, qui se rendent vers ou rentrent de la Mecque, et par les marchands d'épices, parmi lesquels de nombreux chrétiens de la ceinture. Alors c'est quoi ces chrétiens de la ceinture? C'est tout simplement les chrétiens qui sont donc sous domination islamique et qui portent le zunar, donc cette ceinture qui doit les distinguer des autres confessions. Ici, ce sont probablement des coptes, vu que nous sommes situés sur la route du Sinaï. Et ces chrétiens de la ceinture, ces marchands d'épices, font la route entre le port d'Altour, sur la mer Rouge, et le Caire. Jacques de Vérone évoque le Hajj, donc le pèlerinage annuel à la Mecque, en des termes exactement similaires au pèlerinage chrétien. Il le décrit comme un pèlerinage pénitentiel qui vise à l'exemption des péchés, jusqu'à utiliser le même mot, peregrinatio. Il décrit l'affluence des pèlerins, leur organisation, qualifiée non sans une certaine admiration de militaire. Il va jusqu'à opposer la piété des musulmans qui partent en nombre pour la Mecque à celle des chrétiens, qui sont, je cite, « davantage désireux de servir le monde que de servir Dieu ». Enfin, il évoque leur cohabitation momentanée et donc il raconte les interactions qu'il a avec ces gens qu'il rencontre. Il précise que les pèlerins musulmans ne leur disent rien, sinon pour leur demander s'ils se rendent au Tor Sina, donc au mont Sinaï, Tor qui signifie, précise-t-il, mont, et à de nombreuses... Alors, pourquoi c'est important qu'il précise, il dit, voilà, il utilise l'expression Tor Sina, il dit, voilà, Tor, voilà ce que ça signifie pour nous, ça signifie mont. C'est important, pourquoi? Parce qu'à de nombreuses reprises, Jacques de Vérone transcrit les mots arabes qu'il entend de la bouche des musulmans ou des chrétiens, donc ceux qu'il fait ici, afin d'en donner l'équivalence en latin. Alors il confond sans doute ici le nom donné en arabe au mont Sinaï, Jabal al-Tour, et le port d'Altour, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est le fait d'utiliser des termes arabes pour transcrire des réalités qui sont inconnues en Occident, quand il n'a pas l'équivalent du terme en Occident. Et donc ça montre une attention particulière au cadre spatial et humain, au-delà de la seule géographie biblique. Autre source qui nous permet de prendre en compte ces relations entre chrétiens, ce sont les apports de la culture matérielle, notamment via les prospections archéologiques, et ça permet d'envisager Jérusalem un petit peu différemment, dans son urbanité et non plus seulement dans son exceptionnalité en tant que ville des trois monothéismes. La récente publication par l'École biblique et archéologique française des fouilles du Collegio del Pilar donne de nouvelles pistes. Alors, ce sont des fouilles qui ont mis en évidence des fondations d'époque ayoubide et les vestiges datés de l'époque mamelouque, qui reflètent la croissance de la ville au XIVe et XVe siècle. Parmi ces vestiges de l'époque mamelouque, les fouilleurs ont trouvé une fosse d'aisance, c'est-à-dire des latrines, qui a donné des résultats significatifs. Alors, dans quel contexte sommes-nous ? Durant la période mamelouque, on a affaire à une très forte islamisation, une pression populaire qui pousse les habitants non musulmans à se regrouper dans certains quartiers. En même temps, les Mamelouks vont observer le maintien du statu quo qui permet la continuité d'une présence diffuse pour les institutions chrétiennes. Cette présence diffuse, en dépit de ce fort mouvement d'islamisation, est un gage d'interaction facilitée entre les différentes communautés chrétiennes, latines, melkites, orientales et musulmanes. Alors, quels sont les résultats de ces fouilles ? L'analyse des restes de poterie et des parasites intestinaux montre la fréquentation des latrines par des hommes et des femmes en provenance d'au moins deux régions extérieures à la Palestine, l'Europe occidentale et une ou plusieurs vallées du croissant fertile, Tigre, Euphrate et ou Nil. Alors, comment interpréter ces résultats ? Est-ce qu'on peut en conclure que ces latrines étaient utilisées à la fois d'une part par les chrétiens latins, d'autre part par les chrétiens coptes ou syriaques ? Alors, il me semble que oui. Pourquoi ? Parce que ça correspondrait aux interactions entre ces communautés qui sont documentées par d'autres sources, par les récits de pèlerinage, comme par les archives de la custodie et des patriarcats grecs et arméniens. Alors bien sûr, là encore, ces interactions ne doivent pas occulter les tensions entre communautés chrétiennes dans lesquelles les autorités mamelouks sont souvent placées en position d'arbitre. Dernière question qui nous conduit au dernier point de ce que je veux essayer de vous dire, c'est par qui ces pèlerins sont accueillis et encadrés. Eh bien, ils sont accueillis et encadrés par les frères de la custodie franciscaine de Terre Sainte. La custodie a été fondée en 1342. Elle a pour premier siège le monastère du Mont Sion, édifié auprès du Cénacle, sur le terrain fondé en 1333 par le sultan mamelouk, par le sultan mamelouk, donc Al-Nazir Muhammad, au frère Roger Guérin d'Aquitaine. S'il faut définir la présence de ces franciscains de la custodie à Jérusalem, je la qualifierais de présence négociée. Pourquoi négociée ? Ils doivent négocier en permanence avec les autres églises, melkites et orientales, pour affirmer leurs droits dans les principaux sanctuaires de Terre Sainte, mais négocier aussi avec les autorités mamelouks de Jérusalem et du Caire, qui sont celles qui fixent les conditions d'existence de ces communautés chrétiennes au sein du sultanat. Alors, je déduis cette présence négociée de quoi ? Essentiellement, pour ma part, de l'étude des archives conservées à et par la custodie. Bien. Donc, ces franciscains de la custodie de Terre Sainte, qui sont dans cette logique de présence négociée, sont pris dans des interrelations multiples. Que nous disent les archives de la custodie ? Alors, elles nous permettent d'étudier ces interrelations. Prenons un exemple pour vous faire comprendre un petit peu ce qu'il y a dans ces archives et comment est-ce qu'on arrive à déduire les interrelations de ces archives. C'est que dans ces archives, on a essentiellement des documents légaux islamiques, c'est-à-dire signés par des témoins et qui forment autant d'instruments légaux pour faire reconnaître les droits de la custodie la plupart du temps. Qu'il s'agisse de la réhabilitation des couvents, de leurs droits sur tel ou tel lieu saint, et on a aussi des actes notariés, des actes de vente, etc., etc. Alors, prenons donc un exemple précis, les années 1436-1437. Que se passe-t-il ? Le custode demande l'autorisation aux autorités islamiques de restaurer le couvent du Mont Sion qui est menacé de ruine. La procédure s'étend sur 2 années, donc avec de nombreux rebondissements. Il obtient l'autorisation donc de procéder à cette reconstruction, à ces restaurations. Que nous apprend cet ample dossier, qui est composé de 9 documents ? Chaque document correspond à la sentence rendue par les différentes autorités islamiques convoquées. Alors d'abord, il nous donne un fourmillement d'interactions sur la communauté franciscaine, la topographie, l'architecture du couvent du Mont Sion, la population de Jérusalem et des alentours, avec la mention des maçons qui sont en charge des travaux de leur village d'origine. Mais surtout, ce dossier dit avec éloquence la complexité des relations qui unissent la custodie aux autorités mamelouks. Cette complexité ne peut se limiter au constat minimal de l'existence d'un cadre légal, la dhimma, ou pacte de protection, qui fixe les conditions d'existence de la communauté franciscaine et d'exercice du culte latin. La même année où le sultan Barz Bey donne l'autorisation aux franciscains de restaurer leur couvent, 2 frères franciscains de la custodie sont emprisonnés, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ils sont emprisonnés. Bien. Ces interactions des franciscains avec les musulmans ne sont pas les seules, bien sûr, qu'ils ont avec la population proche-orientale. Il y a des interactions également avec les communautés chrétiennes melkites et orientales. Alors, 2 indices nous mettent sur la voie de ces interactions. Premier indice, toujours pris dans les archives de la custodie, la confirmation des droits des franciscains au calvaire, contre les revendications géorgiennes. Et là, c'est sous le sultan Barkouk, à la fin du XIVe siècle. Deuxième indice, la mention d'un cimetière commun aux franciscains et à l'ensemble des chrétiens, à proximité immédiate du couvent du Mont Sion. Là encore, dans plusieurs actes datés du sultanat de Barz Bey, dont nous parlions pour la réfection du couvent du Mont Sion. Alors, premier indice. Les franciscains récupèrent les droits sur un autel au calvaire. Ça nous montre ici le climat de compétition entre les églises qui place les autorités mamelouks de Jérusalem en position d'arbitre. Ce sont les mamelouks qui décident de qui détient tel ou tel hôtel au Saint-Sépulcre, ou à l'Anastasis, si on prend la dénomination grecque. Le second indice, cette mention d'un cimetière commun, va lui dans le sens d'une coexistence contrainte ou voulue entre les églises quant à la gestion de l'espace funéraire. L'autre est donc ici celui avec lequel il faut composer, chrétien ou musulman, ou celui qui est placé en position d'arbitre par l'ensemble des églises, le sultan via ses représentants. La construction est celle des archives, construction des archives qui reflètent un rapport bien sûr pragmatique à l'autre, chrétien ou musulman, qu'il s'agisse des conditions quotidiennes de la présence des frères, de leur place au sein des principaux sanctuaires de Jérusalem et de Bethléem, et de leur rôle d'encadrant des pèlerins. Puisque nous parlons des pèlerins, permettez-moi pour finir d'évoquer juste la façon dont ces pèlerins perçoivent les frères de la custodie qui précisément les encadrent quand ils arrivent en pèlerinage à Jérusalem. Un récit anonyme du XVe siècle permet de s'en faire une idée. Il s'agit d'un Français qui part donc pour la Terre Sainte en 1486. Et il mentionne une anecdote qui décrit avec assez de justesse la position des frères de la custodie entre les autorités mamelouks et les pèlerins. Il s'agit de la tentative de Fakhr ed-Din, qui est appelé Foulkardin par l'anonyme de Rennes, de rançonner les pèlerins au prétexte qu'ils n'avaient pu prélever à temps les taxes sur deux galères pèlerines qui mouillaient à Jaffa. Il est décrit par le custode Suriano comme protecteur des pèlerins chargé par le sultan, Kate Bey à ce moment-là, de veiller au bon déroulement de leur pèlerinage. Et cet homme, donc, le Foulkardin des sources latines, estime que les pèlerins sont collectivement responsables et il entend faire peser sur eux, c'est-à-dire sur ceux qui étaient présents à Jérusalem à ce moment-là, les taxes non acquittées par leurs coreligionnaires. Et l'anonyme de Rennes présente alors la custode à la fois comme l'intermédiaire avec les autorités mamelouks, comme le garant devant les dites autorités de l'acquittement des taxes par les pèlerins. Et aussi, dans la suite de son récit, comme le protecteur des pèlerins. Pourquoi ? Parce que, premièrement, c'est lui qui va introduire ce Foulkardin, donc d'après cet anonyme de Rennes, auprès des pèlerins et dire « voilà, il faut que vous payiez les taxes, voilà ce qu'il vous demande ». Et puis le dimanche suivant, alors que Fakhr ed-Din renouvelle sa demande et menace de faire prisonnier le duc Jean de Bavière, après avoir souffleté un des pèlerins, je cite « les cordeliers l'en dissuadèrent à force de prières ». Et là, ici, le custode et les franciscains vont servir de protecteurs par rapport à ces pèlerins que va tenter de rançonner Fakhr ed-Din. Alors, s'il est impossible de généraliser à partir du seul témoignage anonyme d'un pèlerin du XVe siècle la situation des franciscains, la confrontation de son témoignage avec les archives de la custodie montre les diverses modalités de la présence négociée donc des franciscains de la custodie face aux autorités mamelouks et face aux autres églises. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapide tour d'horizon ? D'abord que plusieurs facteurs concourent à expliquer les constructions pèlerines latines de l'altérité chrétienne orientale durant le sultanat mamelouk. Premier point, la construction de l'altérité se situe au carrefour de la culture savante, des représentations occidentales et de l'expérience de la rencontre. Il faut ajouter qu'à partir de la fin du XIIIe siècle, une tendance au primat de l'expérience, des connaissances de terrain sur la culture savante se fait jour. Trois facteurs expliquent cette importance nouvelle accordée à l'expérience, importance de courte durée, puisque les récits de la première modernité vont montrer plutôt une tendance à un retour en force de la culture savante. Alors, quels sont ces trois facteurs ? D'abord, le dépaysement induit par le voyage en lui-même. Ensuite, l'avènement des ordres mendiants, qui conduit à de nouvelles modalités d'acquisition des connaissances et à un nouveau rapport au monde. Et enfin, la précarité revendiquée des mendiants, conjuguée à la précarité réelle des pèlerins et des franciscains de la custodie qui les encadrent. Enfin, les modalités concrètes du pèlerinage, lieu d'accueil, étapes sur le chemin des lieux saints, célébrations communes, besoins quotidiens, et les relations constantes des franciscains de la custodie qui les encadrent avec les autres églises et avec les autorités mamelouks fournissent de nombreuses et diverses occasions d'interaction entre les pèlerins latins et leurs coreligionnaires, qu'ils viennent comme eux en pèlerinage à Jérusalem ou qu'ils y vivent, et bien sûr avec les musulmans.